Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
C'est le 56e Super Bowl à Los Angeles et la zone payante est sur place. Les Rams de Los Angeles joueront dans leur stade et ils sont favoris pour remporter le trophée Vince Lombardi. Pendant ce temps, les Bengals et Joe Burrow font sensation auprès de la planète football avec leur parcours inespéré. Et c'est terminé pour les postes d'entraîneur dans la NFL. Toutes les équipes ont trouvé chaussures à leurs pieds. On parle de tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à La Zone Payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné et c'est la semaine du Super Bowl. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette, mes deux experts football. Comment ça va les gars?
Ça va très bien, mais pas autant que Stéphane.
Ah, c'est parfait, parfait, parfait. Ça va.
On est très inquiète, Stéphane, cette semaine, qui est à Los Angeles. J'espère qu'il a mis de la crème solaire sur le bout de son nez. Et on est tellement bien ici au Québec, on n'a pas de préoccupation d'insolation comme ça. Toi, Stéphane, tu dois souffrir le martyr là-bas.
Oui, effectivement, c'est pas facile la vie. T'sais, cette semaine, ils annoncent des avertissements de chaleur extrême, chaleur accablante. Donc, évidemment que je vis des choses très difficiles. Je vous remercie de votre soutien à l'avance. Mais non, sans blague, les gars, là, c'est
trêve de colibé, vraiment, là. Parle-nous un peu de l'ambiance là-bas. Parle-nous, ouais. Tu sais, on le sait, là, c'est pas ton premier Super Bowl. Là. Tu nous diras c'est ton combientième. Mais on sait qu'une ville, quand elle reçoit le Super Bowl, la ville devient Super Bowl.
Exactement, il y a que ça ici là. Tu sais, je te dirais que en ce moment vous vivez probablement le buzz Jeux Olympiques. Moi, ici là, c'est comme si on le sent même pas. Là. C'est hallucinant, c'est Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl, mur à mur. Puis c'est très bon là, de revenir dans l'action. L'année passée, on n'était pas allé, pandémie oblige. C'est mon 10e moi cette année, donc j'égale la marque de Tom Brady. Il n'y a pas de cérémonie prévue à ce que je sache par la NFL. Là. Mais je vais essayer d'arranger ça.
Est-ce qu'on va retirer ton calepin?
Non, j'adorerais ça, mais honnêtement, je pense pas que c'est prévu. Mais comme je te dis, il y a une conférence de presse de Roger Goodell aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de lancer l'idée. Mais l'ambiance est excellente dans la ville. Moi, je vous dis, là, on dit ce qu'on veut là, aux États-Unis et tout ça, mais ça fait quand même du bien de retrouver une vie à peu près normale pendant quelques jours. Les gens sont de bonne humeur. Le Super Bowl a manqué à Los Angeles. Il faut dire, c'est la 8e fois que le Super Bowl est présenté ici, mais c'est la première depuis janvier 93. Ça remonte à loin. Rappelez-vous, janvier 93, là, c'était la dynastie des Cowboys, ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. C'était les Bills qui étaient présents au Super Bowl à chaque année pendant 4 ans. Ça fait un bail. Puis, tout est prêt pour la visite. Le stade, j'ai allé faire un tour hier pour une visite médiatique. C'est tout simplement à tomber à terre. J'en ai vu quelques-uns des stades, puis il n'y a pas grand-chose, là, honnêtement, qui se rapproche de ça. Faut bien, là, 5 milliards, vous me direz, là, fallait bien que ça soit beau. Mais jusqu'à maintenant, très, très, très content de mon expérience, vraiment agréable.
Steph, est-ce que tu sens un buzz autour des Rams? Parce qu'on sait que c'est pas encore nécessairement l'équipe de Los Angeles. Alors, t'as évidemment les Chargers qui sont là aussi, mais c'est pas le soutien envers les Rams est pas si incroyable que ça. Est-ce que là, tu sens qu'il y a une ferveur?
Ben, en ce moment, c'est sûr que oui. Tu sais, la semaine du Super Bowl, ça paraît. Sont clairement au-dessus des Chargers, là, je te dirais. Puis en ce moment, tu sais, en ville, je suis allé, moi, à un match des Lakers contre les Bucks de Milwaukee. Il n'y a pas la ferveur habituelle pour les Lakers. Là. Tu sais, ils connaissent des moments difficiles cette saison, les Lakers. Donc, ouais, les Rams ont le loisir en ce moment de prendre toute la place, que ce soit dans l'attention médiatique, dans le cœur des gens. C'est une occasion unique. Puis j'avais une entrevue il y a 2 jours avec Kevin DeMoss, qui est pas mal le chef de l'exploitation des Rams, là, tu sais, un peu le CEO, si on veut. Puis, ils mentionnaient que c'est l'occasion vraiment là, d'agrandir leur base de partisans encore plus parce qu'il expliquait, il dit, il n'y avait pas d'équipe ici là, pendant quoi, là, de 94 à 2016, pendant 22 ans. Ça a laissé un trou. Là. Puis il y a des partisans de football à Los Angeles qui sont tournés vers des équipes d'autres marchés qui sont restés fidèles à ces équipes-là. Donc,
et qui ont gardé les Raiders qui sont pas loin.
C'est ça, les Raiders ou d'autres tu sais, qui sont tombés dans leur mire. Puis à un moment donné, ben c'est dur de les ramener, mais avec ce qui se passe en ce moment avec les Rams, ben l'occasion est parfaite.
OK, ben écoute, Steph, on va te souhaiter une belle fin de séjour et surtout un bon Super Bowl parce que tu vas être dans la galerie de la presse donc ouais. Dimanche au Super Bowl. Tu pourras nous en parler la semaine prochaine lors de ton retour avec un beau tan, on le souhaite. Peut-être que ce sera d'ailleurs une photo qu'on pourra partager sur les réseaux sociaux pour voir l'étendue de ta souffrance.
Ouais, c'est ça, vous allez voir, là, c'est spectaculaire.
OK, hey, merci Steph. On reste avec nous, là, même si tu es à plusieurs heures de décalage, parce que...
Mais de tous les combats, j'en ai.
On est sur la même planète football et on pourra ensuite, après la pause, commencer notre match et parler des forces en présence. Bougez pas.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Here comes Huston! Here comes Huston! C'est Red Cashin. Vous êtes sur la zone payante et c'est la semaine du Super Bowl. On a Stéphane Cadorette qui est sur place et on est en compagnie aussi de Jean Carrier. Et c'est le moment, les gars, de débuter notre match. Et pour le match cette semaine, je vous propose de parler des équipes en présence. Parce que c'est pas deux équipes là, qu'on peut parler, même des gens qui suivent le football comme moi depuis longtemps, on les connaît pas, là, on sait pas tant, c'est pas deux gros, ben, en fait, Los Angeles, c'est maintenant un gros marché, mais c'est pas deux équipes qu'on est habitué de voir au Super Bowl et c'est pas deux équipes qu'on connaît par cœur. À commencer par les Bengals. Et Jean, toi, d'ailleurs, au début de l'année, tu nous avais dit, hein, les Bengals, regardez-les, ils sont bien équilibrés, une belle mentalité, t'aimes bien leur entraîneur. Présente-nous donc un peu l'équipe de l'Ohio. Quel genre d'équipe que c'est? Est-ce que c'est vraiment une équipe qui vient de leur division où le jeu au sol est souvent préconisé? Puis de quelle façon ils ont bâti leur équipe pour se rendre au Super Bowl?
Offensivement, ils l'ont bâti, je pense, de façon assez moderne. Là. C'est plus nécessairement le style de l'AFC Nord où est-ce que tu poundes le jeu au sol, que tu essaies de le mettre dans la gorge de l'adversaire. C'est pas ça du tout. Puis évidemment, ben c'est une équipe qui a marié les forces de son carrière, son jeune carrière, Joe Burrow, qui a donné des outils pour travailler. Évidemment, Ja'Marr Chase, cette année, a une saison exceptionnelle comme recrue. T. Higgins est excellent. On l'a vu aussi lors du match face aux Chiefs. Ben, si tu mets trop d'emphase sur un joueur, t'auras pas de problème à lancer la balle avec Higgins. Puis écoute, on en reparlera pour le match, mais il pourrait avoir un gros rôle à jouer aussi dans cette rencontre-là. Évidemment, t'as quand même un bel équilibre parce que t'as aussi un excellent porteur de ballon avec Joe Mixon. Puis t'as quelques vétérans dont t'as Tyler Boyd, le receveur, qui est un excellent, je pense, slot receiver, là, un excellent troisième receveur. Uzuma aussi, qui est l'ailier rapproché, qui est le vétéran. Il y a le leader émotif, je dirais, des Bengals. C'est un des vrais vétérans là, des Bengals qui est là depuis les tout débuts avec Tyler Boyd depuis le début de sa carrière, sa 8e saison. Puis c'est un gars qui est très important pour eux. Il est quand même un ailier rapproché athlétique. Puis évidemment, ben, on se pose des questions là, sur son statut dans la rencontre. Ce qu'il faut mentionner, défensivement, c'est une défensive qui joue beaucoup de défensives de zone. C'est pas une équipe qui aime blitzer, vraiment pas. C'est une équipe qui aime ça en général, mettre de la pression à 4 à 4 joueurs de ligne défensive, mais on l'a vu face aux Chiefs. Ils peuvent avoir des game plans où ce que ça change, des plans de match où ce qu'ils en utilisent juste 3, comme on a vu en deuxième demi. Mais je serais surpris que ce soit le même plan de match là, face aux Rams, qui est une attaque complètement différente de celle des Chiefs.
Bon, les Bengals, Jean, disons que les auditeurs, il y a plusieurs personnes qui vont regarder le Super Bowl pour le premier match de l'année quasiment de football, parce que c'est pas juste des partisans de football qui regardent le Super Bowl, mais ils veulent s'intéresser un peu au match. C'est quoi les joueurs, c'est quoi les numéros, c'est qui qu'on doit suivre du côté des Bengals en fin de semaine?
Ben évidemment, moi je pense que tout part du carrière. Là. Joe Burrow, c'est la grosse tête d'affiche des Bengals. C'est le joueur de franchise. Puis son surnom, je pense qu'il dit tout, Joey Franchise. Écoute, c'est pas mal ça. C'est le numéro 9. Dans les joueurs vraiment, je pense, spectaculaires, Jamar Chase, c'est le numéro 1. C'est un receveur dynamique, très, 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 très explosif. Puis comme j'ai mentionné, ben, T. Higgins, le numéro 85. En défensive, tu as aussi des bons joueurs. Tu as Trey Hendrickson, qui est un ailier défensif, athlétique, il est capable de mettre de la pression sur le carrière. L'autre ailier défensif, le numéro 94, c'est Sam Hubbard. Ensuite, dans la tertiaire, je trouve qu'il a joué un excellent match face aux Chiefs. Le vétéran Eli Apple, lui, il a pas nécessairement commencé sa carrière avec les Bengals, mais il donne un fier coup de main. Je trouve qu'il a été très, très, très solide lors de la dernière rencontre. Donc, c'est pas mal les joueurs, je pense, qui peuvent retirer l'attention.
Jesse Bates, le maraudeur, c'est un des meilleurs de la ligue à sa position.
Je suis d'accord. Un autre point que j'aimerais mentionner aussi, c'est les Bengals, pour les partisans, tu sais, il y en a très peu des partisans des Bengals au Québec, mais il y en a pareil. Ça reste que c'est un historique important. Même les propres partisans, ils sont pas sûrs encore d'être capables de battre la mentalité de perdant qui était un peu attaché à l'équipe. C'est une équipe qui est allée deux fois au Super Bowl, qui avait des bonnes équipes dans les années 80, début 90. Ils ont perdu en 82 face aux Niners et en 89, encore une fois face aux Niners et Joe Montana. Puis c'est la fameuse drive là, que Joe Montana était revenu de l'arrière puis avait brisé le cœur des Bengals avec une passe à John Taylor sur un skinny post. Puis les Niners l'avaient emporté 20-16. Puis depuis ce temps-là, ça avait été la traversée du désert. Là. Ça a été une quinzaine d'années quasiment, jusqu'à dans les années milieu 2000. Ça a été, je pense, 15 ou 16 saisons perdantes consécutives. Ensuite, Marvin Lewis est arrivé comme entraîneur-chef. Ça s'est redressé, mais il n'a jamais eu confiance envers cette équipe d'avoir du succès et certainement du succès en série. Et là, comme par magie, Joe Burrow arrive, puis on sent que la culture autour de l'équipe a complètement changé. Est-ce que cette équipe-là est capable de faire le miracle puis ramener le Super Bowl à Cincinnati? Écoute, on va le savoir dans... très bientôt, on va le savoir dimanche soir. Mais une chose est sûre, c'est que c'est plus le même aura autour des Bengals de Cincinnati. On peut plus les appeler les Bengals, les gars.
C'est vrai. En fait, on pourra pas leur enlever leur participation au Super Bowl de cette année, certainement. On va voir de quelle façon ils vont se comporter dans le match. Et deuxième essai, Stéphane, on s'en va te voir parce que là, ils partent favoris, les Rams. Ils sont à domicile. Ils ont une équipe de vétérans. Ils ont des bonnes lignes à l'attaque, bonnes lignes à la défense. Présente-nous donc un peu l'équipe de Los Angeles.
Ben les Rams, depuis quelques années déjà, c'est la culture du tout pour le tout. Tu sais, écoute, ils ont pas de choix de première ronde depuis 2016, puis si ça change pas, ils en auront pas avant 2024. C'est très, très rare qu'on voit ça dans la NFL. Sais-tu quoi? Pour eux autres, ça fonctionne. Depuis que Sean McVay est l'entraîneur-chef, donc 2017, 21 transactions. T'sais, ça bouge les Rams. Là. Ils n'hésitent jamais à faire un move pour améliorer leur alignement dans le moment, sans nécessairement là, t'sais, considérer que les premiers choix sont sacrés et sont sains et sont intouchables. Cela dit, c'est trompeur un peu. Parce que on se dit souvent, ouais, les Rams, ils se foutent du repêchage. C'est carrément pas vrai. Ils ont échangé des choix de première ronde. Ça attire beaucoup l'attention. mais c'est l'équipe qui a eu le deuxième plus haut total de choix au repêchage depuis 2017, avec 45 choix. T'sais, c'est une moyenne de 9 par année, c'est beaucoup. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est qu'ils repêchent plus tard, mais ils repêchent très bien. Si vous regardez leur alignement, là, il y a beaucoup de choix de 3, 4, 6e, 7e ronde qui font partie de leur alignement. Donc, c'est leur philosophie un peu, les Rams, de dire on peut aller chercher de bons joueurs étoiles avec nos premiers choix. Pour le reste, concentrons-nous à bien repêcher. Donc, c'est ça. Leur style, ben écoute, sont très créatifs offensivement avec Sean McVay, on le sait. Beaucoup de motions, des formations très variées. C'est une équipe qui passe beaucoup. Là, on parle d'un ratio d'environ 60% de passes par rapport à la course. Donc, tu sais, c'est un Super Bowl qui pourrait amener des flamèches, là, évidemment. Défensivement, tu sais, Jean parlait des Bengals avec leur pression à 4 joueurs, pas beaucoup de blitz. Les Rams, ça va être une pression à 4, parfois 5, avec Leonard Floyd aussi là, qui se met de la partie. Mais c'est une équipe qui joue beaucoup avec deux maraudeurs en profondeur. Là. Tu sais, ce qu'ils vont faire, eux autres, leur jeu, c'est de forcer les Bengals à être patients, à se contenter de courts gains. C'est là qu'on va voir si Joe Burrow peut tenir la route dans ce contexte-là. Je pense que oui, mais c'est une équipe là, qui va vraiment vouloir éliminer les fameux longs jeux à Ja'Marr Chase et T. Higgins, parce que c'est souvent là que les Bengals ont fait mal aux autres. Puis c'est une équipe qui, tu sais, qui est composée vraiment, qui met ses vedettes à l'avant-plan. Là. On parle du corps arrière, Matthew Stafford. Les receveurs, évidemment, Cooper Kupp, le numéro 10, Odell Beckham, le numéro 3. Tu sais, c'est des stars à leur position, là, vraiment. Kupp, qui est fort probablement le joueur offensif de l'année dans la NFL avec sa triple couronne. Puis, en défensive, c'est pareil. On mise sur vraiment la part de tout le monde, oui, mais quelques joueurs défensifs en particulier qui ont un statut de vedette. Aaron Donald, le gros plaqueur au milieu, 99. Ceux qui s'adonnent à regarder le Super Bowl, qui c'est un de leurs premiers matchs, qui suivent pas trop les joueurs défensifs, regardez-le aller à quel point il est disruptif, il explose la pochette, il se ramasse tout le temps en face du corps arrière. Jalen Ramsey, le demi de coin, évidemment, numéro 5. Ça, j'ai hâte. Contre Ja'Marr Chase, ça devrait être du bonbon. C'est sûr qu'il sera pas aligné contre lui tout le temps. Mais honnêtement, moi, il n'y a pas une confrontation qui m'allume plus que celle-là, là, ça, c'est sûr.
Le 5 contre le 1.
Exactement. Le numéro 1 dont Jean parlait tantôt, Jalen Ramsey va être, je pense, pas mal souvent dans sa face. Quoi qu'on on déplace beaucoup Ramsey dans la défensive des Rams. Là.
Les Rams, c'est une équipe qui aime jouer du homme à homme. Hein? Donc, ouais. Ça, il faut le mentionner, beaucoup plus que les Bengals.
Fait que, tu sais, je pense qu'ils vont se voir quand même souvent. Puis ça va donner du bonbon. Puis un joueur que j'aimerais que les gens surveillent, Andrew Whitworth, le bloqueur le plus âgé de l'histoire à 40 ans, le bloqueur à gauche du côté des Rams, numéro 77. Écoute, il a joué à peu près toute sa carrière à Cincinnati. Quand il s'est amené avec les Rams, il y a quelques années de ça, c'était en apparence une solution très court terme. Là. On voulait amener du leadership, peut-être qu'il soit là un an ou deux. T'sais. Finalement, il est encore là, il est encore capable de tenir son bout. Vraiment une histoire intéressante que celui-là qui joue contre son ancienne équipe. Là, ça aussi, c'est pas mal intéressant.
Troisième essai, les boys, on s'en va quelque chose que j'aime, parce que quand on est question de Super Bowl, on parle toujours de statistiques, d'ailes de poulet vendues, bien consommées, mais il y a toutes sortes de fun facts quand même autour du Super Bowl. Puis là, je vous ai demandé de faire un peu de recherche là, puis de me revenir avec des choses qui pourraient intéresser nos auditeurs puis qui pourraient leur donner un air intelligent aussi quand ils vont en parler autour, parce que là maintenant, on va pouvoir regarder Super Bowl avec nos amis en fin de semaine à la maison. Donc, qu'est-ce que nos auditeurs pourraient dire pour avoir de l'intérêt, pour créer de l'intérêt là autour d'eux dimanche lors du match? Stéphane, t'en as-tu des fun facts le fun?
Il y en a tout le temps des fun facts le fun. Regarde, j'en ai un. On parlait là rapidement des deux défensives. Tu sais, bon, les Bengals jouent en zone, les Rams en man-to-man, mais d'un point de vue moins stratégique, plus statistique, c'est seulement le troisième Super Bowl dans l'histoire qui va mettre en vedette deux défensives qui sont pas dans le top 10. Ça, c'est rare. Là. T'sais, on dit toujours, la défensive gagne les championnats. C'est le fameux adage là, qu'on entend à chaque année au Super Bowl. Les Bengals sont 17e défensivement, les Rams 15e. deux autres fois seulement dans l'histoire là, qu'il n'y a pas eu de défensive du top 10 qui s'affrontait. C'est quand même un fait rare, donc il risque d'y avoir là, quelques pétards durant ce match-là. Ça ne veut pas dire que les défensives jouent pas bien, mais c'est pas souvent là, qu'on voit une situation comme celle-là.
Jean, as-tu une autre? Je vais vous demander d'alterner, faites-en un chacun, puis on va...
Moi, j'aime beaucoup celui-là. Le premier touché de l'histoire au Super Bowl 1, il a été compté par un gars qui était lendemain de veille.
Ah ben oui.
Max Maggy, le receveur des Packers, était pas supposé jouer. Le joueur partant se blesse, Boy Dollar. Lui, il avait pris un coup la veille. Il est pogné pour jouer. Vince Lombardi fait appel à lui. Il y a un match incroyable. 7 attrapés, 138 verges. Le premier touché de l'histoire du Super Bowl. Catch à une main pour 37 verges. Il était presque en boisson sur le terrain. C'est quand même spectaculaire.
Wow. Puis un Super Bowl qui avait été remporté par les Packers.
Par les Packers. 35-10 face aux Chiefs au LA Coliseum, qui est le premier endroit. Ça coûtait $12 avoir un ticket, avoir un billet pour le Super Bowl.
On est loin des prix que j'ai vu circuler en fin de
semaine. Avec l'inflation, ils parlent que ce serait $90 aujourd'hui.
Ouais. Disons que le Super Bowl s'est rendu, c'est difficile de dire, ah, je vais y aller, je vais faire un petit trip et je vais acheter deux billets à 10 000 piastres US.
Fait que Max Maggy, on n'avait même pas besoin de l'envoyer au bar. Lui, il allait de façon naturelle.
Steph.
Ouais, puis en passant, juste le prix des billets cette année, là, en ce moment, là, on parle d'une moyenne entre 9 et 10 000 $ à titre de comparaison là, pour ton fun fact, Jean. Il y a une petite inflation là, modérée, disons là, comme ça. Là. Écoute, il y en a plusieurs qui se posent la question. Parce que les joueurs sont payés en saison régulière, mais les gens se demandent souvent, est-ce qu'ils ont un salaire au Super Bowl, puis qu'est-ce qu'il y en a? Juste vous le dire, l'équipe gagnante l'an passé, les Bucks de Tampa Bay, les joueurs des Bucks avaient eu un beau petit chèque de 150 000 $ pour leur effort, tandis que les perdants chez les Chiefs, ben eux, c'était 75 000 $ Je sais pas pourquoi, c'est une question moi qui m'est revenue souvent par des lecteurs là au fil des années. On me la pose presque à chaque année, fait que j'ai décidé de la mettre dans mes fun facts parce que effectivement les salaires des joueurs sont étalés sur la base de la saison régulière, mais ça prenait quand même un petit bonbon là pour le Super Bowl. Quoique, je pense pas que rendu là, c'est le chèque du gagnant ou du perdant qui les motive outre mesure.
Non, puis souvent, ils ont des dispositions dans leur contrat aussi qui leur donnent des bonnies s'ils se rendent à telle ou telle étape dans les
séries. Des bonnies qui sont bien plus importants que ce que je viens de mentionner, d'ailleurs.
Exact. Qui représentent quand même le salaire moyen d'une personne dans le 5%, ou même dans le 1. OK, merci Steph. Jean, un autre fun fact pour nos auditeurs?
Bien sûr. Écoute, je vais parler de tirage au sort. Souvent, ils ont des pièces qui sont faites là, de façon spéciale juste pour le Super Bowl. Mais au Super Bowl 44, se sont vraiment amusés avec ça. C'était Emmitt Smith qui était le capitaine honoraire de la partie. C'est le Super Bowl entre les Colts de Peyton Manning et les Saints de Drew Brees. Puis pour la pièce de monnaie qui a été utilisée, il l'avait envoyée dans l'espace avec la NASA pendant 11 jours autour de la Terre.
Mais non.
Et oui, et ils l'ont ramené à temps pour le Super Bowl pour faire tout simplement le tirage au sort. C'est quand même spectaculaire.
Quelle démesure.
Ouais, donc c'était en 2010. Ça va être dur à battre, ça, honnêtement.
Allez, une dernière chacune. Steph, t'en as-tu...
Ben oui, toujours. Toujours. Ben oui. Écoute, moi je suis intrigué parce que cette année, Super Bowl à Los Angeles, qui met en vedette une équipe de Los Angeles, tu sais, c'est un énorme marché télévisuel. Si je vous demandais, c'est quel le Super Bowl qui a été le plus écouté dans l'histoire? Je ne sais pas si vous avez une idée.
Des gros marchés, mettons, je dirais...
On dirait que c'est moi qui arrive avec la question au quiz. Hein?
Ouais, mais je dirais que c'est, Tom Brady n'est pas dedans, ça se peut-tu?
Ah, malheureusement pour
non,
toi...
Non, c'est New York Giants contre la saison parfaite des je dirais que c'est celle-là.
Ça aurait été un bon choix, mais le record Super Bowl 49 entre les Patriots et les Seahawks, 114,4 millions les codes d'écoute aux États-Unis. C'est à ce jour le show télé le plus écouté de l'histoire des États-Unis. C'est ça, j'ai hâte de voir cette semaine si ça pourrait accoter ça, parce que, comme je le disais, LA est un très, très gros marché télévisuel, évidemment. Donc, ça va être un élément à surveiller après le match.
C'est un match, en plus, qui s'était terminé en fin de match, que ça aide aussi à attirer les téléspectateurs. Jean, toi, de ton côté?
Écoute, je vais te parler du trophée du Super Bowl. Le trophée du Super Bowl, il est fait à chaque année pour donner à l'équipe gagnante. C'est Tiffany, l'entreprise Tiffany, qui est quand même très, très connue, qui s'occupe de faire le trophée. Ça prend 4 mois pour créer le trophée, qui est toujours fait de façon pareille. Il est 22 pouces de grandeur. Il pèse 7 livres. Il est fait en sterling silver. Puis la compagnie Tiffany est également en charge de s'occuper du trophée de la NBA, qui est le trophée de Larry O'Brien, et celui des séries mondiales. Donc, ils sont spécialistes là-dedans, et tout simplement. Et je vais te dire, il y a une seule équipe dans l'histoire de la NFL qui a été nominée pour un Grammy Award. C'est laquelle, messieurs?
Les Raiders?
Non, c'est les Bears de Chicago en 85, quand il avait enregistré le fameux Super Bowl Shuffle.
Ah, ben oui.
Et c'est la seule équipe qui a été nominée pour un Grammy. Donc, c'est un peu en lien avec le Super Bowl. Mais écoute, des fun facts, j'en avais ramassé quelques-uns.
Hey, mais les gars, si vous voulez faire vos paris avant qu'on se laisse là-dessus, là, c'est facile de savoir qui va gagner. Les Rams sont en blanc. 14 des 17 derniers Super Bowls ont été remportés par l'équipe en blanc. Donc, mettez votre cash.
Il y a une seule équipe également, il y a un seul joueur dans l'histoire du Super Bowl qui a gagné le trophée MVP dans le rôle de l'équipe perdante. Est-ce que vous savez c'est qui, messieurs?
Ça doit être un...
C'est dans les tout débuts. Super Bowl 5.
Non, vas-y.
Secondaire des Cowboys de Dallas, Chuck Hawley, face aux Colts d'Indianapolis dans une course perdante.
Merci les gars, on va en discuter tout à l'heure du MVP du match. Je vais vous demander de vous commettre et de me dire qui sera le joueur par excellence du match en fin de semaine. Mais après la pause, là, on va parler des changements d'entraîneur, parce que c'est bien beau les partisans qui ont leur équipe au Super Bowl, mais il y en a plusieurs, la majorité, là, qui ont malheureusement, qui regarderont ça de la maison, et certains joueurs auront un nouvel entraîneur. 9 équipes ont changé d'entraîneur dans les dernières semaines. On en parle après la pause, bougez pas. On est à la zone payante fin de semaine de Super Bowl, mais aussi entre saisons, parce que la saison morte a débuté dans la NFL et plusieurs changements d'entraîneurs ont eu lieu. Les gars, si vous voulez bien, on va passer la liste des entraîneurs qui ont vu leur chèque de paye changer, en tout cas au moins d'adresse, mais pour plusieurs, ils vont pas mal améliorer leur sort. On va commencer par les Vikings, Steph, que tu connais bien. Ils ont donc changé après nombre d'années qu'on avait toujours la rumeur, est-ce que Hans Zimmer va finir la saison? Là, il l'a fini, mais là, il commencera pas la prochaine. C'est Kevin O'Connell qui va débuter, le plus jeune entraîneur signé cette année, 36 ans.
Oui, O'Connell qu'on va voir sur les lignes de côté avec les Rams, coordonnateur offensif. Là, c'est toujours la folie de l'arbre de coaching de Sean McVay qui se poursuit. Hein. Tout le monde s'arrache ses assistants. Il y a eu Zach Taylor à Cincinnati. L'an passé, ça a été Brandon Staley qui a été le coordonnateur défensif qui est parti diriger les Chargers. Ben là, c'est Kevin O'Connell. Personnellement, oui, là, le dynamisme, tout ça, l'arbre de McVay, c'est invitant, mais j'ai toujours des doutes quand on embauche un coordonnateur offensif qui ne colle pas les jeux. Tu sais, c'est Sean McVay, là, le boss, l'attaque là-bas. Vous direz, ben regarde, ça a marché pour les Bengals avec Zach Taylor, mais ça a été pénible là, les premières années de Zach Taylor. Je suis pas convaincu pour l'instant. C'est surtout aussi qu'il y a 6 ans d'expérience dans le coaching. Il vient d'arrêter de jouer là au Canon. Je pense qu'il a joué jusqu'en 2012. Puis 3 comme coordonnateur. C'est le point moi que je me demande, c'est l'expérience. Par contre, il a déjà dirigé Kirk Cousins à Washington pendant une saison. Il peut y avoir un élément de chimie là. Donc c'est pas juste du mauvais puis des doutes là, mais j'ai quand même une certaine gêne là, par rapport à ça.
Jean, tu as un mot là-dessus?
Écoute, moi, ce que j'aime d'O'Connell, c'est que c'est un corps arrière. Donc, souvent, ils ont des visions assez larges sur le sport du football. Il connaît les défensives également. Puis, je pense que les Vikings ont besoin de s'améliorer défensivement également, pas juste offensivement, qui allait quand même bien l'attaque. Mais c'est sûr que son manque d'expérience, pour moi, ça peut être questionnable. Mais écoute, c'est toujours très difficile de dire hey, « j'aime cette embauche-là, j'aime pas celle-là ». Celle-là, honnêtement, pour moi...
Non, là, c'est sûr que là, on est en mode premières analyses. Exactement. On va voir un peu comment...
On laisse toujours chance aux coureurs, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des points d'interrogation avec Kevin O'Connell.
Matt Eberflus pour les Bears.
Ouais, c'est une des embauches que j'aime bien. C'est un coach qui a roulé sa bosse. Écoute, il a 51 ans, il est là depuis longtemps, il a coaché avec 4 équipes de la NFL. C'est un coach défensif. Il a coaché au college avant, je pense que lui, c'était... à Toledo, je pense qu'il a fait ses armes, ses premières armes, il est resté là longtemps. Puis écoute, il a vraiment, je dirais là, fait étape par étape tout ce qu'il avait besoin de faire pour devenir un entraîneur-chef dans la NFL. Je suis convaincu qu'au niveau de l'éthique de travail puis de la façon qu'il va se comporter avec l'équipe, il va être apprécié de ses joueurs parce que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Il sait comment ça marche un vestiaire de la NFL. Donc ça. C'est sûr qu'offensivement, il va avoir besoin d'être accompagné par un bon commentateur à l'attaque qui va bien entourer son jeune carrière parce que je suis pas sûr que lui va être capable d'y donner ça comme coach défensif. Mais écoute, encore une fois, c'est le petit questionnement que je me pose sur Matt Eberflus.
Steph, une ligne là-dessus? Ouais.
Pour enchérir sur ce que Jean a dit, le côté offensif va être assuré justement par Luke Getsy, qui est une embauche très intrigante, qui était le responsable du jeu aérien chez les Packers, le coach des corps arrière aussi. Il avait développé de très bons liens avec Aaron Rodgers. C'est facile d'avoir l'air d'avoir de bons résultats quand tu joues, quand tu coaches avec Aaron Rodgers. Mais il n'empêche que c'est un coach qui était de plus en plus respecté. On en parlait même comme d'un potentiel entraîneur-chef. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est un bon move d'Eberflus de s'adjoindre finalement les services d'un bon gars à l'attaque, d'un bon cerveau. Ça devrait être bon pour le développement de Justin Fields.
Et Brian Daboll, qui s'en va finalement à New York après avoir fait partie de plusieurs rumeurs dans d'autres équipes, mais les Giants, finalement, qui ont l'entraîneur de longue date.
Ouais, ça fait quoi, 2 ans à peu près, 2-3 ans que son nom circule. Il était à Buffalo avec Josh Allen depuis ses débuts, là, en 2018, Allen, je pense. Donc, c'est ça, là. C'est un gars qui a su maximiser ses forces, qui a bien travaillé avec lui, qui l'a mis en confiance. On donne une dernière année à Daniel Jones, à moins bien sûr qu'il élève son jeu. Là, ça pourrait être à plus long terme. Donc, c'est un coach qui sait très bien travailler avec les corps arrière. Puis, il y a une familiarité aussi avec le nouveau GM que les Giants ont embauché de Buffalo aussi. Donc, ça, c'est déjà intéressant à la base quand un mariage a plus de chances de réussir. Tu sais, des fois, tu arrives en poste, il y a déjà un DG où... Les deux se connaissent pas nécessairement, tu sais pas trop ce que ça va donner. Ça, à la base, je trouve que ça part bien du côté relationnel entre les deux postes clés pour relancer l'équipe.
Dans le cas de Double, pour moi, on sait que c'est un bon assistant coach. Écoute, il a même gagné le meilleur assistant coach dans la NFL en 2021. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de relancer les Giants puis s'imposer comme entraîneur-chef? Ouais, c'est le questionnement, puis on va y donner sa chance, tout simplement.
Les Broncos, eux, sont allés chercher à Green Bay Nathaniel Hackett.
Ouais, ça, c'est pour moi, c'est une des embauches qui me plaît le plus. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que, un, il roule sa bosse quand même depuis un certain temps dans la NFL. J'aime un gars qui, malgré qu'il n'est pas si vieux que ça, il a 42 ans. C'est sûr qu'il n'y a pas les 34, 35, 36 ans de certains là, qui ont été embauchés. Bon, 36 puis 38 ans, là, les plus jeunes. Mais c'est quand même relativement jeune. Mais pour moi, Nathaniel Hackett, il vit dans la NFL depuis qu'il a probablement 4-5 ans. Son père, c'était Paul Hackett, un commentateur à l'attaque qui a longtemps été avec les Chiefs, entre autres. Donc, il sait c'est quoi un vestiaire de la NFL. Il est dans ce entourage-là depuis fort, fort longtemps. Écoute, pour moi, un fils de coach, c'est quelque chose pour moi qui qui doit être recherché dans la NFL. Moi, je suis convaincu que Nathaniel Hackett va faire le boulot. Puis évidemment, ben écoute, il y avait une très belle, une bonne relation avec les Packers puis Aaron Rodgers. Donc, on se demande tous s'il va être en mesure de mettre le grappin sur Monsieur Rodgers et peut-être même Devante Adams, pourquoi pas. Mais pour l'instant, pour moi, je trouve que c'est une excellente embauche.
Ben, je suis d'accord en tout point. Moi, tout ce que je vais rajouter, c'est que il a été le coordonnateur à l'attaque des Jaguars en 2017. Il a amené Blake Bortles en finale de conférence. Pour ça, il devrait être consacré monument historique.
Dennis Allen, lui, un peu surprenant, s'en va avec les Saints de Nouvelle-Orléans.
Ouais, ben. Pour moi, ça a tous les airs d'une embauche de coach de transition. Là, parce que, écoute, c'est un bon coach défensif, ça, il n'y a pas de doute. Il a fait de l'excellent travail avec la défensive des Saints. Tu sais, je pense qu'on opte un peu pour la continuité là, après le départ inattendu de Sean Payton. Mais il reste que comme entraîneur-chef avec les Raiders de 2012 à 2014, fiche de 8-28. Tu sais, ça n'a pas été nécessairement convaincant. C'est sûr qu'il part avec de bonnes bases, mais en même temps, l'équipe qu'on a là en Nouvelle-Orléans pourrait être très différente dans quelques mois. Il y a des dures décisions qui s'en viennent du côté salarial. Donc ça va pas nécessairement l'aider à s'établir là à très long terme. On va laisser la chance au coureur, encore une fois, on le dit tout le temps. Mais ça me semble être une embauche simplement là, dans la continuité avant peut-être de faire un plus grand remaniement.
Je suis d'accord avec Stéphane. Pour l'instant, ils veulent garder une certaine continuité. Puis ce qui va être un peu étrange pour les Saints, c'est d'avoir là un entraîneur-chef offensif, puis d'avoir vraiment une philosophie offensive toutes ces années, puis là, avoir un coach défensif comme entraîneur-chef, c'est peut-être juste une transition un peu étrange de ce côté-là.
Et peut-être sans Alvin Kamara.
On y reviendra.
Doug Peterson, je ne sais pas qui mérite le plus un monument, mais gagner le Super Bowl avec Nick Foles, ça doit faire partie des finalistes.
Vas-y, Steph.
Peterson, il y en a qui ont chialé sur cette embauche-là. Tu sais, pourquoi on le ramène? Nanana. Moi, au contraire, je trouve que c'est une bonne idée dans le contexte actuel à Jacksonville. Tu sais, t'amènes dans une situation un peu bordélique, tout croche, où il y a eu le fiasco Urban Meyer. Tu ramènes un coach d'expérience qui a joué dans la NFL, qui a longtemps été carrière dans la NFL, qui a gagné un Super Bowl comme coach, qui a une mentalité agressive. Je pense que c'est un atout pour Trevor Lawrence. C'est pas le choix le plus sexy là, dans la gang, mais je trouve que dans le contexte actuel des Jaguars, il y avait besoin de mettre de l'ordre un peu dans la cabane, puis c'est un choix très logique.
Il coche beaucoup, beaucoup de cases. C'est un ancien joueur qui a déjà gagné le Super Bowl, bon, comme réserviste, mais ça reste qu'il l'a fait quand même. C'est quand même un entraîneur-chef qui a gagné le Super Bowl, qui a une fiche positive globale dans la NFL. Il n'y en a pas tant que ça. Puis il y a eu du succès. Maintenant, c'est un coach qui est très, très organisé. C'est peut-être sa principale force. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est ce que les Jaguars ont besoin. Ils ont besoin d'être recadrés, organisés. Je pense que Peterson va leur donner ça. Mais évidemment, ben Peterson, ce qui est souvent peut-être remis en compte un peu, c'est souvent peut-être son play calling, des fois que les gens ils sont pas certains parce qu'il est tellement agressif. Moi, j'ai aucun problème avec cette embauche-là. Puis ce que les Jaguars ont besoin, c'est de plus d'avoir de drame autour de l'équipe.
Ouais, c'est ça. Un entraîneur moins volage, là, ça serait bienvenu.
Je pense que Peterson va leur donner ça, tout simplement.
Les Dolphins, eux, sont allés chercher Mike McDaniels à San Francisco. 38 ans, un autre jeune.
Ouais, lui c'est vraiment jeune. C'est peut-être l'embauche que j'aime le moins. Puis je sais qu'écoute, tout le monde parle de lui en bien. Là. Ça a l'air de toutes les choses de la bonne façon. Un adepte du jeu au sol de Kyle Shanahan. Mais ce que je me questionne beaucoup, c'est son approche. Est-ce qu'il va avoir une approche d'un vrai entraîneur-chef qui va être capable de parler aux joueurs? Josh McDaniels, il en a parlé hein, dans sa conférence de presse avec les Raiders. Avec son premier stage, il était pas prêt parce que il voyait peut-être trop les X et O, la stratégie. Puis ce qui manquait, c'était la relation personnelle avec les joueurs. On dit que ça va très bien de ce côté-là. quand il était avec les Niners, mais c'est vraiment ce que je me questionne souvent avec les embauches des jeunes entraîneurs. On va voir si McDaniel va faire le boulot. Mais je pense vraiment, par contre, qu'offensivement, il va changer les Dolphins, puis le jeu au sol s'en vient pour aider Tua, puis je pense que ça va être positif de ce côté-là.
Mmh. Ouais, moi, c'est une embauche que j'haïs pas du tout. C'était dans les noms qui m'intriguaient. À un moment donné, on avait fait un genre de petit résumé des noms qu'il fallait surveiller dans le cycle des embauches. Là. Puis je l'avais mentionné, McDaniel. T'sais, il a été coordonnateur du jeu au sol sous Shanahan. C'est sûr qu'il va vouloir enlever de la pression sur Tua en développant un vrai jeu au sol à Miami, là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça va prendre peut-être des nouveaux chevaux pour faire ça, honnêtement. Ça se fera pas du jour au lendemain en claquant des doigts, mais honnêtement, un autre coach qui provient de l'arbre de Shanahan, qui est grandissant aussi, je pense que les Dolphins peuvent voir l'avenir d'un bon œil.
Ouais, bon, mais parce que moi, je vois plutôt un gars, comme tu disais tout à l'heure, qui a jamais fait d'appel de jeu, qui a très peu ou pas de contact dans la NFL pour former une équipe d'expérience d'assistants. Il y a un problème de boisson over the top qui contrôle, là, mais quand même. Et que je sais pas, là, je suis pas emballé, moi, en tout cas. OK, Lovie Smith qui s'en va à Houston, ça, c'est une embauche curieuse.
Ouais, moi, j'ai rien contre Lovie Smith. T'sais, il a fait du bon travail avec la défensive des Texans, avec ce qu'il avait entre les mains, il faut le dire, cette saison. T'sais, tu regardes les chiffres des Texans 2020 par rapport à 2021. On se lancera pas dans les détails parce que ça serait long. Mais les Texans ont quand même vraiment augmenté dans toutes les catégories importantes là, au niveau de leur performance. C'est pas ça le problème, c'est plus le processus qui était étrange. On interviewait un paquet de monde. Finalement, à dernière minute, sorti de nulle part, ouais, on était intéressé finalement à Lovie Smith, notre coordonnateur. Tous les autres plans semblaient tomber à l'eau. Écoute, oui. Je parlais de coach de transition tantôt avec Dennis Allen. J'ai encore l'impression que les Texans, qui avaient déjà cette approche-là avec David Culley, leur ex-entraîneur-chef, se retournent vers la même approche. Là, comme si, ouais, on sait pas trop. Fait que, regarde, tant qu'à ça, Lovie Smith, ouais, je suis pas convaincu par le processus. Lovie Smith, on va y redonner une chance. Il avait fait du bon travail, honnêtement, avec les Bears là, à l'époque. Mais c'est une drôle de façon de faire que les Texans ont eu dans toute leur démarche.
Mais écoute, quand tu as des dirigeants qui vont faire une prière après avoir pris une grosse décision administrative, non. Écoute, c'est
ça part d'en haut. Là.
Ça part un peu d'en haut. Ceci étant dit, moi, j'ai pas de problème avec Lovie Smith. Un vieux routier va amener une présence apaisante, je pense, que sur le banc des Texans. Puis il peut difficilement faire pire, là. Les Texans, c'est un club qui est en reconstruction. Moi, je pense que là, défensivement, ils vont continuer de s'améliorer. C'est un club partout où il est passé, il a mis beaucoup d'emphase défensivement sur créer des revirements. Je pense qu'il va continuer à le faire avec Houston. Puis tranquillement aussi fort que l'attaque s'améliore. Puis évidemment, lui, il est prêt que le bourbier de Sean Watson.
Ouais.
Qu'est-ce qui arrive avec DeSean? Il y a beaucoup, je pense, de choses qui vont se régler quand ce problème-là va être réglé.
Le dernier, non le moindre, on en a évoqué tout à l'heure, Josh McDaniels qui requitte les Pats et cette fois-ci pour Las Vegas.
Cette fois-ci pour vrai aussi, parce qu'il avait quitté les Pats pour les Colts puis il l'a pas fait finalement.
C'est vrai.
Mais tu sais, je pense qu'il mérite une autre chance. Honnêtement, il a fait du bon travail au fil des ans avec les Pats. C'est parce qu'on pense au désastre qui a été avec les Broncos. Puis tout le fiasco qui a imposé là, chez les Colts il y a quelques années quand il s'est retiré à la dernière minute, là, le contrat était presque signé. Mais écoute, c'est un coach d'expérience. Il arrive dans une situation que je trouve enviable au sens où les Raiders, c'est un club de série malgré plusieurs obstacles cette année. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là sous la main. Il y a un corps arrière avec lequel il peut très bien travailler en Derek Carr, à moins qu'on décide d'aller vers un toute autre option, là. Mais écoute, McDaniels arrive dans une bonne situation maintenant, comme on l'a dit la semaine passée, je pense qu'on en parlait. Il faut qu'il améliore ses relations sur le plan.
C'est beau de dire que tu as appris tes erreurs, là, mais
il faut que tu le prouves. Ouais.
Exact.
Prouve-le, puis montre aussi que tu peux être influencé par autre chose que ce que tu as vu toute ta vie, c'est-à-dire aussi. Le Patriot Way. Ça, c'est l'élément pour moi qui est préoccupant.
Écoute, un bon résumé de Stéphane, mais tu sais, il y a une chose qui me préoccupe pas, moi, c'est les X et les O. Josh McDaniels, j'en ai entendu quand même quelques-uns des commentaires à l'attaque dans la NFL, là, dans des conférences de coaching. C'en est un que j'ai entendu. Je peux vous dire qu'il est extrêmement intelligent, les gars, au niveau stratégique. Pour lui, c'est les relations personnelles. Il semble avoir... Écoute, il a dit toutes les bonnes choses, je trouve, à la conférence de presse, avec beaucoup d'humilité. Maintenant, il faut tout simplement qu'il l'applique à tous les jours, de façon constante, dans un vestiaire de la NFL, comme entraîneur-chef.
Merci, les gars. Et après la pause, c'est le moment attendu. C'est votre analyse du match du Super Bowl et vos prédictions aussi pour le Super Bowl et pour le joueur le plus utile. Restez là.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Vous êtes sur la zone payante. Jean Nicolas Gagné au micro en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette en direct de LA. OK, les gars. On y est.
Ça fait glamour, hein, la zone payante en direct de LA.
C'est vrai, mais t'es le seul. C'est la magie de la technologie qui nous permet de te joindre. Mais on aimerait ça être partagé un peu le soleil, mais on le partage, mais il n'y a pas le même effet. OK, trêve de météo. On parle maintenant de ce qui va se passer sur le terrain. Parce qu'on a deux équipes que personne n'avait vues, en tout cas, et je repasse les gens qui avaient des prédictions pour le Super Bowl cette année, là.
Ben, écoute, bien malin. Il me semble que Jean avait vu les Rams au Super Bowl.
Ouais, j'avais les Rams qui gagnent le Super Bowl, mais écoute, j'avais changé d'idée au début des séries.
C'est vrai, c'est vrai. Tu vois,
au tout début de l'année, j'avais pris les Rams pour tout remporter.
C'est vrai, c'est vrai. Mais le Super Bowl Rams-Bengals.
Ah non, il n'y a pas grand monde.
Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir vu ça dans leur boule de cristal. Ceci étant dit, nous y sommes. Une équipe qui est contente d'être là, une autre équipe qui est due pour gagner un Super Bowl, en tout cas dans leur tête, avec des vétérans aguerris. On va commencer par toi, Stéphane. Présente-nous un peu la façon dont tu vois le match et qui tu crois va remporter le Super Bowl 56 cette année.
Ben, l'enjeu le plus important, c'est évident, ça saute aux yeux, c'est est-ce que la ligne à l'attaque poreuse des Bengals va résister aux assauts d'Aaron Donald et sa gang? Ça, c'est la situation clé à surveiller. D'un autre côté, écoute, Joe Burrow a été saqué 9 fois contre les Titans, puis a survécu à ce massacre de brillante façon. Donc, c'est pas perdu si la ligne à l'attaque se fait malmener, mais il va falloir tenir son bout un minimum. C'est un miracle que les Bengals aient gagné ce match-là malgré 9 sacks. Ça arrive vraiment rarement. Il va falloir voir un minimum là, de résistance du côté de la ligne à l'attaque. Je pense que les Bengals vont prioriser, comme je le disais tantôt, des jeux courts. Ils vont prendre ce que la défensive donne. Ça va y aller petit peu par petit peu, un peu à l'image de la torture de la goutte là, que les Patriots ont adoptée pendant si longtemps. L'autre enjeu, évidemment, c'est est-ce que les Bengals vont être capables de tenir en laisse les receveurs des Rams. C'est très explosif. Ceux des Bengals aussi sont explosifs, mais là, c'est tout un défi pour la tertiaire des Bengals. Honnêtement, que ce soit Cooper Kupp, Odell Beckham, je ne sais pas si, pour l'instant, on ne sait pas encore si Tyler Higbee va jouer, mais c'est beaucoup, beaucoup de choses à défendre. Puis du côté des Rams, un élément jusqu'ici là qui a été peut-être décevant à l'attaque, c'est le jeu au sol. Tu regardes Cam Akers, une moyenne de 2,8 verges par portée. Moi, à chaque match, c'est comme si je m'attends que ça débloque, ça débloque, ça débloque, puis ça arrive pas jusqu'ici. C'est pas nécessairement facile de courir contre les Bengals, mais pour les Rams, ça peut devenir un élément clé là, pour laisser l'attaque dynamique des Bengals sur le terrain. Écoute, si j'avais à résumer ça, c'est comme si toute ma tête me dit que les Rams ont les atouts pour gagner ce match-là. Ça me semble clair, les match-ups sont bons. Mais à quelque part, il y a un impondérable qui s'appelle évidemment Joe Burrow. La magie est avec lui cette année. Puis on a beau dire « Ah, c'est un conte de fées », mais ils sont pas là par hasard, là, les Bengals, tu sais. ils font les choses bien. Défensivement, ils sont capables de jouer, de tenir leur bout sans être intimidants. Ils tiennent leur bout. J'aime vraiment ce que l'attaque fait. Joe Burrow, qui est imperturbable dans les situations de haute tension, là, ça, c'est rare qu'on voit ça à ce point-là chez un jeune corps arrière. Donc, je m'apprête à me tirer dans le pied. J'en suis presque convaincu parce que je vous le dis, toute ma tête, les gars, me dit Rams.
Mais le cœur, qu'est-ce qu'il dit ton cœur?
Écoute, c'est peut-être trop émotif, mais j'y vais avec une victoire des Bengals serrée. Un 27-24 Bengals pour créer la surprise. Écoute, si on vous avait dit il y a quelques années, faites vos prédictions, pas grand monde aurait choisi les Eagles de Philadelphie contre les Pats. Il y a eu des équipes comme ça qui ont un peu transcendé les X puis les O. Puis je pense que les Pats, les Bengals de cette année, ils me rappellent étrangement les Pats de 2001, puis les Eagles de 2017, puis les Saints de 2009 qui s'en allaient jouer contre les puissants Colts de Peyton Manning. Il y a des équipes comme ça, on dirait, qui semblent avoir le vibe de leur côté. C'est pas scientifique, c'est pas stratégique X et O, là, mais il y a quelque chose qui se passe avec eux, puis je vais y aller de leur côté.
Jean?
J'aime ça. Je pense que Steph, il a senti de la pression de ma part parce qu'il est à une prédiction de moi en série. Puis là, il veut aller me chercher, mais écoute, c'est sûr que toute la pression repose sur les Rams. Pendant des choses sont à domicile, puis c'est all or nothing.
C'est eux qui doivent gagner ce match-là.
Exact. Ça va être tellement une grande déception pour les Rams s'ils perdent ce match-là. Fait que si le match est moindrement serré, c'est sûr que je pense qu'ils vont sentir une pression pendant la rencontre. Mais ceci étant dit, moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir les Bengals réussir à bloquer le front défensif des Rams puis avoir quand même relativement du succès. Écoute, ça reste une anomalie le match face aux Titans. Ils n'étaient pas supposés le remporter. Moi, je pense qu'ils vont peut-être avoir encore plus de difficultés cette fois-ci face aux Rams. Parce qu'il faut pas oublier que tu n'as pas juste Aaron Donald. Si tu choisis de doubler Aaron Donald, tu as Von Miller qui va être toujours en seul à seul face au plaqueur des Bengals. Et que ce soit un ou l'autre, ça changera pas grand-chose. Là. Von Miller va remporter cette confrontation-là. Je pense vraiment qu'ils vont avoir de la difficulté à courir également, à se faire respecter. Moi, je pense que les Rams vont mettre de la pression à seulement 4 joueurs. Ils vont arrêter le jeu au sol, puis ils vont mettre une pression intense sur Joe Burrow. Puis ça va faire en sorte que ça va être difficile pour les Bengals de sortir de ce bourbier-là de façon offensive. Je pense que la défensive des Bengals va être en mesure d'arrêter l'attaque des Rams pendant un certain moment. Mais à un certain moment, je pense qu'ils vont flancher, puis ça va rouvrir la porte aux Rams, tout simplement. S'ils réussissent, par contre, à protéger Burrow, ben j'aime beaucoup ce que je vois. Première des choses, moi, tu me dises que tu mets Jalen Ramsey sur Ja'Marr Chase, je m'en fous un peu. Je vais prendre ma chance avec Chase de temps en temps. J'espère que les Bengals vont être agressifs là-dessus. Puis ils vont dire, ah ouais, tu mets Ramsey, ça me dérange pas. J'ai plus confiance en Chase. Puis on va y lancer la balle de façon profonde, puis on va l'attaquer, ton homme. L'autre point, c'est si tu mets Ramsey sur Chase, t'as un sérieux problème avec T. Higgins parce que tu te ramasses avec Darius Williams qui va être probablement sur lui à 5 et 9 et T. Higgins fait 6 pieds 4.
Bon point.
Ça, c'est un gros problème de confrontation. Fait que tout dans le match pour moi est relié à est-ce que les Bengals sont capables de protéger leur carrière, leur investissement, leur joyau. S'ils réussissent à le faire, là, je suis d'accord avec Steph, ils vont probablement sortir victorieux de ce match-là. Mais moi, je ne pense pas. Écoute, je pense encore que le football, ça joue sur les fronts. Et d'un côté, ça va être peut-être un peu plus serré. La défensive des Bengals va tenir son bout face à la ligne offensive des Rams. Mais de l'autre côté, ça sera pas serré du tout. Le front défensif va manger la ligne à l'attaque des Bengals. Et pour moi, c'est ça qui va décider de l'issue de la rencontre. J'ai une victoire des Rams 24-14 face aux Bengals par 10 points. Même pas. Je vais mettre même 27-14.
Ouh, OK, juste. Là, t'es à 13 points. C'est bon.
Ouais, écoute, je pense juste que ça va être difficile de produire offensivement du côté des Bengals. Puis je mise là-dessus. Et okay.
Mais on va y aller avec le MVP. Je vais juste moi aussi faire ma prédiction parce que là, j'ai jamais la chance. Vous me laissez jamais parler. Je suis une victime.
Ah ouais, vas-y, go.
Non, mais je pense que je suis d'accord avec vous. Je suis tout d'accord avec vous sur la ligne à l'attaque des Bengals qui va subir la ligne à la défense, la ligne défensive des Rams. Donc ça, je pense que c'est un gros match-up très important pour le match. Aussi, je pense que les Rams ont une équipe aguerrie, là, tu sais. Les Bengals sont contents d'être au Super Bowl. Tu les vois, là, tu sais, c'est comme si c'est inespéré, puis ils ont déjà accompli quelque chose d'incroyable auprès de leurs fans, puis même pour eux. Puis les Rams, eux, sont plus concentrés sur le trophée, puis c'est ça qu'ils vont aller chercher en fin de semaine. Puis l'autre chose aussi, là, c'est que j'ai l'impression que même si McVay m'a pas montré tant que ça de gestes d'éclat pendant l'année, mais j'ai l'impression qu'il va quand même out-coacher au Super Bowl, que les Bengals vont être out-coachés, Zach Taylor, puis je pense qu'il n'y aura pas de points pendant un bon bout de temps dans le match. Puis quand ça va partir, si les Rams ne se tirent pas dans le pied, ils ne regarderont plus jamais en arrière. 23-17 pour les Rams. OK, allons-y avec le MVP maintenant. Du côté de Steph, si tu choisis les Bengals, je présume que...
Ouais. Ah oui, c'est ça, ça va de soi. Là. Si j'ai choisi les Bengals pour le facteur Joe Burrow, je serais bien mal vu de dire que le MVP va être Joe Mixon. Je l'aime beaucoup, Joe Mixon, mais c'est Joe Burrow dans mon esprit là, qui va faire la différence dans ce match-là.
Jean?
J'ai choisi un match défensif, mais Aaron Donald, il va être très, très bon, mais ça va venir de partout, moi, selon moi, sur le front défensif. Fait que j'ai choisi Cooper Kupp pour remporter le joueur le plus utile. Il va être en confrontation avec Mike Hilton. Hilton, il est pas mauvais, mais il concède beaucoup de verges. C'est pas une bonne idée face à Cooper Kupp. Il va les prendre, ses verges qu'il va concéder. Donc, ça va être le petit receveur qui va couronner une saison absolument monstrueuse.
De mon côté, moi, je pense aussi que ça va être un match défensif et que Von Miller va gagner le MVP en première demi.
Wow!
Ouais, il s'est élevé son jeu quand il y a les grands rendez-vous. Moi, je pense qu'en première demi, il va faire un ravage et c'est là qu'il va gagner le MVP. C'est mon choix défensif, rarement, mais j'hésitais avec Stafford, mais j'ai l'impression qu'il va jouer un match conservateur et que c'est plutôt la défensive qui va remporter le match.
Mais je dois dire que je prends les Rams, mais tout mon cœur est avec les Bengals. Je l'ai mentionné, j'aime pas le fait que les Rams, pour moi, ils essayent de, selon moi, acheter un championnat. J'aimerais beaucoup ça, que la prédiction de Stéphane soit au rendez-vous. Puis je pense que ça serait bon pour la NFL. Un petit marché comme les Bengals qui a eu l'étiquette de perdant pendant si longtemps remporte le Super Bowl, je pense que ça donne espoir à tous les petits marchés qu'il y a dans ce circuit.
C'est tout à ton honneur de prendre un adversaire de division pour remporter le Super Bowl.
S'il gagne ce match-là, il va déjà avoir un film en production le lendemain là, pour Hollywood. Ça, c'est sûr.
Merci, messieurs. Donc, rendez-vous dimanche et on pourra débriefer ensuite la fin de semaine avec l'épisode de la zone payante la semaine prochaine. On va essayer de le faire plus tôt pendant la semaine, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Si on pouvait faire ça le lendemain du Super Bowl, peut-être, on pourra te pogner en deux vols, Steph.
Je suis comme un Boy Scout, mais je suis toujours prêt.
Ça marche. Bon match à vous deux. Bon match à nos auditeurs. Restez avec nous parce qu'après la pause, ben on s'en va quand même au bar. C'est pas parce qu'il y a le Super Bowl qu'on oublie nos devoirs. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. C'est le retour de notre chronique au bar cette semaine à la zone payante. Et qui, Stéphane, tu envoies au bar cette semaine?
Bon, tu sais, des fois, on a des bars très coup de poing d'en face. Des fois, c'est juste une petite tape ses doigts. Aujourd'hui, moi, j'ai une tape ses doigts. J'y vais mollo, OK, les gars? J'envoie au bar, malgré tout ce qu'on a dit sur lui la semaine passée, j'envoie au bar Tom Brady.
Mais non, pas TB12!
Oui, le jeune retraité, tout fraîchement retraité, qui a sa première entrevue à titre de joueur à la retraite, dit Ouais, j'ai pas l'intention de sortir de ma retraite, là, mais faut jamais dire jamais. Tu sais, je sais pas comment je vais me sentir dans 6 mois. C'est un processus difficile.
C'est pas vrai. Il a pas déjà ouvert la porte à revenir au jeu.
Pas plus tard que lundi dernier, il a donné une entrevue. Déjà une porte ouverte. Ça fait penser étrangement à ce que Brett Favre avait fait en 2008. Il était allé, je me souviens plus à quel gros talk show aux États-Unis. C'était-tu Letterman à l'époque? Je le sais plus. Mais il avait dit, écoute, je sais pas quand le camp d'entraînement va arriver, si ça va pas me gratter là, pour y aller. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, je veux pas donner trop d'espoir aux supporters inconditionnels, aux fidèles de Tom Brady, à ses disciples. Mais c'est ce qu'il a dit cette semaine. Puis ça aurait pu attendre, disons, un mois ou deux, je sais pas. Il a le droit, c'est ça, il appartient. C'est pas ça le point, mais... On vient de faire son eulogie, son oraison funèbre. On vient de lui rendre un hommage percutant, puis pas juste dans zone payante. Là, c'est généralisé partout sur la planète football. Puis 3-4 jours après, ouais, tu sais, on sait jamais. Là, on verra bien dans le temps comme dans le temps. Écoute, petite tape ses doigts à Tom Brady. Ça aurait pu attendre un peu. Il aurait pu même décrocher là, de son podcast cette semaine, prendre le temps de relaxer. Puis écoute, ce sera pas bien méchant, là. Je lui prescris même son drink de prédilection, tequila avocado. Donc, c'est ça qu'il avait pris au Super Bowl à la parade à Tampa. Rappelez-vous de l'effet choc que ça lui avait procuré au beau Tom. On l'avait rarement vu aussi magané de la vie. Donc, qu'il se fasse plaisir un peu, puis qu'il repense à tout ça, là, parce que, sincèrement, ça valait peut-être pas la peine tout de suite de faire une sortie là, comme ça, qu'il va laisser ses partisans en haleine.
Jean, qui est dans vos bars cette semaine?
Écoute, je pense qu'il demandait de faire partie de notre show. C'est évidemment le porteur de ballon vedette des Saints de la Nouvelle-Orléans, Alvin Kamara.
Puis lui, tu y vas pas avec la formule, tu te tapes ses doigts, là, si je me trompe pas.
Ben écoute, oui et non. Là, pour les gens qui le savent pas, ben c'était le Pro Bowl qui était à Las Vegas la semaine passée. Un horrible show sur toute la ligne, mais ça, c'est une autre histoire. Alvin Kamara, lui, n'a pas participé à la rencontre parce que la veille, il est allé dans un bar et évidemment, il a décidé de tabasser un client du bar. Écoute, selon ce que j'ai lu un petit peu, là, le client en question aurait insulté un de ses amis, l'aurait traité, il aurait dit qu'il était laid. Et pour ça, ben, il s'est mérité une dizaine de coups de poing d'Alvin Kamara. Puis ben, le monsieur en question ne se rappelle plus de sa soirée, évidemment, il est magané. Et là, ben, monsieur Kamara devra faire face à la justice. Tout ça pour dire que le Pro Bowl à Vegas, c'est pas une bonne idée, les gars. C'est vraiment pas une bonne idée. Et pour le bar de M. Kamara, ben écoute, je vais lui donner... je pense qu'il a besoin de se calmer les nerfs. Donc, pas d'alcool pour M. Kamara.
Bonne idée.
J'ai préparé une limonade à la lavande et au bleuet.
Aïe, il manque juste de la camomille pour le calmer. Dans
ben, écoute, clairement, il a pas besoin d'être excité là, présentement, Alvin. Fait que un peu de bleuet, du jus de citron, c'est 3 onces de lavande, puis un peu de sirop, un peu de sirop. Évidemment, pas d'alcool. Et va siroter cette limonade-là. Jusqu'à temps qu'il se soit apaisé les nerfs révise peut-être son comportement. Évidemment, on va attendre de voir qu'est-ce qui va en sortir. Là.
Ouais, mais ça regarde mal là, quand même.
Ça regardait pas bien là, parce que il aurait tabassé, mais il est pas tout seul. Là. Ses amis ont donné des coups de pied quand le gars était à terre par la suite. Bref, vraiment pas chic là, cette histoire-là. Et Alvin Kamara au bord, messieurs. C'est tout ce qu'il mérite.
Merci, messieurs. Merci pour cet épisode bien rempli. On va voir maintenant, c'est aux joueurs de donner le spectacle dimanche. C'est le Super Bowl 56 à Los Angeles, au stade où sera Stéphane Cadorette, qui nous fera un rapport de tout ça la semaine prochaine. Merci, les gars.
Merci bon Super Bowl à tous et un bon show de la mi-temps que je suis excité. Le hip-hop va être finalement à l'honneur au Super Bowl, ça va me faire penser un peu à mon adolescence.
Exact. Je vais essayer d'en profiter pour tout le monde. Bon Super Bowl à tout le monde qui nous écoute. Et à vous aussi, messieurs.
Merci, messieurs. Merci à vous. Merci aux auditeurs d'avoir été là encore cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Zone Payante. Bye.